Les Trois Sagesses, père Marie-Dominique Philippe, le 7 septembre 1998 à Saint-Jodard.
Après avoir vu ces deux extrêmes, ces deux sagesses extrêmes, la sagesse philosophique, n'est pas infuse, même pour saint Thomas. Et la sagesse mystique, personnelle, donnée à l'enfant de Dieu, donnée à un membre, deux extrêmes. Je n'ai fait qu'ébaucher ces deux. C'est sûr. C'est pendant toute notre vie que nous précisons ce qu'est la sagesse philosophique, ce qu'est la sagesse mystique. Nous en vivons le plus que nous pouvons. C'est-à-dire nous demandons de l'oraison, demandons de plus en plus, et plus nous approchons du terme, plus nous le demandons, et plus l'Église s'approche du terme, plus l'Église le demande. Et c'est sûr que la petite Thérèse nous étant donnée comme docteur de l'Église, le mystère de la sagesse infuse, mystique, c'est comme un appel pour chacun d'entre nous à le demander avec encore plus de force. Parce que nous en avons besoin pour mener notre vie chrétienne avec ferveur et notre vie contemplative avec ferveur. Parce que notre vie contemplative, c'est le fruit de cette sagesse infuse. Notre oraison en est aussi le fruit. Et notre oraison nous dispose plus à l'exercice du don d'intelligence, du don de science et du don de sagesse. Mais la fidélité à l'oraison, la fidélité au temps réservé à l'oraison. Nous ne pouvons pas commander à l'Esprit Saint d'être là et d'exercer le don de sagesse au temps réservé pour vivre de l'oraison. Saint-Esprit nous donne sa lumière quand il le veut et comme il le veut. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est de lui donner du temps. Et d'une manière assez farouche. Évidemment, la charité fraternelle fait qu'à certains moments, l'Esprit Saint nous fait comprendre que c'est la charité fraternelle qui doit passer devant à ce temps qui est réservé, parce que ce temps qui est réservé, c'est nous, et dans ce temps qui est réservé, c'est l'Esprit Saint qui travaille. désire prier. On fait des actes d'adoration. On fait des actes d'amour. Où on lit l'Écriture avec ferveur et amour, en sachant que c'est Jésus, que c'est l'Esprit Saint qui nous parle. Et puis, Saint-Esprit, quand il le veut, nous permet de nous envoler un peu. Autrement, on fait des tours de piste indéfiniment. Et on est trop lourd pour nous envoler. Parce que le Saint-Esprit nous laisse travailler, même dans l'oraison. Ça peut arriver, ça. Ce qui dispose le mieux à la contemplation, c'est de faire des actes d'adoration, faire des actes d'amour, exprimer notre désir, et puis prendre une parole du Christ et la porter dans notre cœur comme nous étant adressés. Ça, c'est ce qui nous dispose le plus à l'oraison et à la contemplation. Parce qu'il n'y a pas de méthode d'oraison. Il y a des manières de consacrer le temps que nous voulons donner au Seigneur pour qu'il ne soit pas trop pris par les distractions. Et tout ça est en vue d'être transformé par le cœur du Christ, transformé par le souffle de l'Esprit Saint, par l'envol. on peut, dans la stricte rigueur, on peut, vu ce que c'est que la théologie, ça on le voit, enseigner la théologie sans grâce d'oraison, sans grâce intérieure. En soi, oui. Mais dans la vie du théologien qui enseigne, je crois qu'un sens profond du mystère de Dieu, de la très sainte Trinité, de Jésus, de la grâce, des dons du Saint-Esprit, qui n'a pas une certaine expérience, sa théologie deviendra très vite assez morte, assez peu vivante. Et ça, c'est intéressant à se poser la question, parce que ça montre les relations intimes qui existent entre la vie intérieure sous le souffle de l'Esprit Saint grâce au don du Saint-Esprit, cette vie intérieure et la théologie. Il y a une relation difficile à préciser puisque en théologie je ne communique pas mes grâces intérieures, personnelles, de mon oraison et de ma vie intérieure avec Dieu. Cela est précisément ma vie intérieure personnelle avec Dieu et pour Dieu. Mais il est sûr que mon oraison, que ma soif de contemplation donne à ma foi, à mes actes de foi, une vitalité beaucoup plus profonde pour saisir les mystères de Dieu de manière beaucoup plus intérieure. Et à ce point de vue-là, ça permet aux théologiens d'être un théologien bien plus respectueux du mystère qu'il essaie de comprendre, de communiquer. Un mystère, un sens bien plus profond du mystère du Christ. Une présence beaucoup plus grande du mystère du Christ. C'est pas indifférent. Et les étudiants le sentent tout de suite. C'est normal, parce que justement, là est communiqué d'une manière plus froide, plus intellectuelle, et l'autre est communiqué d'une manière plus vitale, au plan affectif, au grand plan affectif des dons du Saint-Esprit. Objections de ceux qui attaquaient une sorte de symbolisme qui suggère, qui évoque le mystère. Alors on montre l'intelligibilité de ces symboles. Donc vous voyez, il y a là un rôle philosophique, qui est une théologie à l'état embryonnaire. L'intelligence émise, l'intelligence sagesse philosophique, émise au service de la parole de Dieu, pour défendre cette parole.
C'est qu'un mythe.
nécessité de la théologie. Et ça a commencé par l'apologétique. Ça a commencé aussi par défendre la foi des chrétiens. Et puis, on est arrivé à une théologie dite scientifique par Thomas d'Aquin qui représente une conscience théologique beaucoup plus parfaite qui arrive à une conscience théologique qui dit qu'elle est scientifique mais étant une science l'œuvre propre de Thomas d'Aquin, de mettre au service de la parole de Dieu une intelligence humaine dans ce qu'elle a de plus pénétrant, de plus pointu pour les attributs propres, discerner dans la parole de Dieu ce qui relève d'un langage symbolique. Quand on parle du bras de Dieu, quand on parle des pas de Dieu, Adam a entendu les pas de Dieu. La méditation n'est pas l'imaginaire. Ça repose sur la parole de Dieu et son amour. Tandis que je peux méditer sur la bonté de Dieu. Je peux méditer sur la sagesse de Dieu. Je peux méditer sur l'acte créateur de Dieu. Puis-je méditer sur le Big Bang? Non. Non. L'imaginaire. Vous voyez, là, la théologie commence par une critique nécessaire dans le langage de Dieu. Et après cette distinction, saint Thomas se sert d'une philosophie réaliste, d'une métaphysique et d'une élaborer une théologie. Et qui n'est pas infuse, mais qui est acquise. Et c'est la théologie scientifique de Thomas d'Aquin qui demeure un sommet. Après Thomas d'Aquin, il y a eu de très grands théologiens, disciples de Thomas d'Aquin. On ne peut pas nier un Jean de Saint-Thomas. Bagnès, de très grands théologiens qui ont complété la somme théologique de Thomas d'Aquin, un cacheton. Ils ont complété en est-ce que Thomas d'Aquin disait ? Alors on a l'école thomiste, puis petit à petit l'école thomiste, à un moment donné, a confondu la métaphysique et la logique. Et à partir de là, la scolastique a utilisé la logique. Aujourd'hui mes avis, ne sont pas légitimes. Et parce que il n'y a pas de recherche de la vérité. Mais c'est une question là théologique qui montre que la théologie est dépendante de la philosophie que vous avez. Cela montre qu'un théologien doit être capable d'être philosophe. Il doit être capable de savoir si telle philosophie égale peut-être assumée par la foi dans une recherche théologale, théologique. Et il y a un très grave problème là-dessus. Cela, je vous demande d'y penser longuement. Et c'est un problème de frontières. Peut-il y avoir une alliance entre une philosophie fausse qui ne cherche pas la vérité? Qui prétend qu'on ne peut pas découvrir Dieu à partir de ses effets. Un philosophe qui prétend que l'intelligence humaine est l'Église condamne. Dois-je, auparavant, avant de me servir d'un philosophe, voir s'il a cherché toute sa vie la vérité, si à un moment donné, il n'a pas confondu vérité et sincérité. Vous voyez, étant donné le caractère sacré de la théologie, doctrina sacra, parce que la théologie fait appel directement à la foi, et la foi est surnaturelle, donc elle est sacrée. Ai-je droit de donner les pourceaux, les perles aux pourceaux, ou les pourceaux aux perles? Ai-je le droit de faire une mixture entre une philosophie idéaliste, un ontologisme et la foi? C'est un devoir pour tout être intelligent et croyant de faire le partage des eaux. Je n'ai pas le droit d'abîmer ma foi. C'est mon trésor. Par la foi que je connais tous les secrets de Dieu. Je les connais sans évidence, mais je les garde. Et par la foi, je suis le tabernacle des secrets de Dieu. Par la foi, je garde jalousement ces secrets de Dieu. Alors, est-ce que je n'abîme pas ce dépôt sacré en le livrant à une philosophie qui ne cherche plus la vérité, qui n'a plus cette exigence-là, et je crois que c'est un grand problème d'aujourd'hui, même, je dirais, le problème premier. S'il enseigne la théologie, il est responsable de la croissance de foi de ses auditeurs, ou au contraire de la déviation, peut-être la mort de la foi. Bien fait. parce que je n'ai pas le droit de faire des essais. Je cherche ce qu'est la personne humaine. Je ne suis pas très bon philosophe, tant pis. Étant embryonnaire. Parce que la philosophie est beaucoup plus qu'instrument pour la théologie. Je disais tout à l'heure, la foi assume la théologie. Un peu analogiquement comme le Verbe de Dieu assume la nature humaine dans le Christ pour le mystère d'incarnation. C'est un exemple, une analogie qui a souvent été prise par les pères de l'Église. Jésus n'est pas un pur instrument. Il a une volonté propre. Il a une nature propre. Il a une connaissance propre. Un pur instrument ne modifie pas le contenu, mais simplement la manière dont ce contenu peut être présenté, peut être communiqué, peut être donné. C'est pas la même chose. Et donc, je crois qu'on doit dire que la philosophie est plus qu'un instrument. Elle est assumée comme la nature humaine. Et donc, il y aura un témoignage du théologien assumer une philosophie saine, bonne, cherchant la vérité. Parce que les rationes dont se servent le théologien, qui sont des rationes philosophiques, font plus que simplement modifier. Elles impliquent une certaine détermination qui demande d'être achevée, qui a un mode inférieur. C'est pour ça que c'est une véritable sagesse deux autres, la sagesse théologique. Elle est quelque chose de particulier. Un vrai théologien ne peut pas se dispenser d'être philosophe, métaphysicien. Papa. Parce que s'il ne l'est pas, il va l'accueillir d'un autre. Et là, il répétera. Et un théologien, un vrai théologien, n'est pas fait pour répéter. Il est fait pour montrer toute la richesse de la révélation. Toute la richesse de la foi.